Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, rebonjour à ceux qui étaient déjà avec nous. Pour ceux qui sont dans le premier cas, pas de panique, hein, vous pouvez retrouver la première heure du MAG de l'IMO, toutes nos chroniques, toutes nos interviews en podcast sur notre site radio.imo, sur notre application Radio IMO et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à la deuxième partie du MAG de l'IMO, celle consacrée à notre grand témoin, et je dis notre car évidemment je ne suis pas seule, je suis toujours en compagnie de Fabienne Lissac.
Et oui, j'ai grand plaisir, Johanna, à présenter cette émission avec vous, parce que chaque semaine c'est une découverte, et là on est à Paris, on croit tout connaître de la capitale, on en parle beaucoup à Radio IMO, mais quand on parle à quelqu'un qui travaille le marché depuis 28 ans, je peux vous dire en préparant cette émission qu'on a vraiment un spécialiste. C'était un choix, une religion, Roger Abécassis, de vous implanter dans l'Ouest parisien, ou c'est venu à la faveur des rencontres, hein?
Alors, écoutez, j'ai un papa qui était dans l'immobilier, donc je suis né dans ce milieu, mais j'ai choisi de travailler dans un autre milieu au début de ma carrière. Mal m'en a pris, parce qu'en fait, il s'est avéré que par atavisme, c'était vraiment ma vraie passion. Et à l'âge de 28 ans, en fait, j'ai fait une rencontre avec mon associé, qui est toujours mon associé aujourd'hui.
Et on peut le citer, hein, peut-être.
Oui, il s'appelle Patrick Goldberg. C'était un vrai coup de cœur, et de notre rencontre est née une volonté commune de créer une société un peu différente dans l'immobilier, dans les prestations de services immobiliers. Et on a démarré en fait sur Paris logiquement parce que c'était son quartier de prédilection, et notamment dans le 17e, la première agence en 94 dans le 17e.
Qui existe toujours ?
Elle existe toujours, elle s'est même agrandie.
Et maintenant, il y en a combien ? On disait 14, c'est ça, sur Paris ?
14 agences implantées dans tout l'Ouest parisien, plus une agence en Normandie et un bureau aux États-Unis qui représente la marque là-bas.
Pour la petite histoire, quel était ce métier qui vous a connu pendant quelques temps ? Ici, on aime bien découvrir le business, l'activité, mais les managers aussi. Racontez-nous.
Alors en fait, c'était un métier particulier, c'était par opportunité. Je travaillais pour les banques et je faisais des prestations de services en transport de fonds, traitement de chèques, traitement d'espèces pour les banques. Tout ce qui est prestations de sécurité pour les banques. Donc c'était un métier particulier qui ne m'a pas passionné.
C'est un sacré changement de passer de ça à l'immobilier.
L'erreur était première. Le changement m'a sauvé la vie, en fait.
Mais c'est quoi ? C'était la volonté de absolument pas faire comme papa ?
C'était une volonté, mais c'est surtout, c'était une grosse erreur, parce qu'en fait, ne pas faire comme papa est une énorme erreur. Et du jour où j'ai commencé l'immobilier, se lever le matin et être à 130%, c'est beaucoup mieux que de travailler dans un autre secteur à 30%.
C'est pas moi qui vous dirais le contraire, Fabienne.
Et puis, vous êtes également implantée à Deauville, en Floride. On va en parler dans un instant. On parle de cet écrin où vous êtes, hein, au gré d'un grand immeuble de 5 étages, art déco dressé face à la Tour Eiffel. Votre groupe est florissant, une référence dans le secteur du luxe. C'est pas facile, vous n'êtes pas tout seul, hein, à être des spécialistes de l'immobilier haut de gamme. Quel est votre regard sur ce segment très disputé?
Alors, nous ne sommes pas tout seuls, et c'est pour ça qu'il faut évoluer en permanence. La concurrence est rude, mais la concurrence est de moins en moins nombreuse. En fait, il s'avère que le business model du multi-agence en réseau propre s'est développé au cours des 20 dernières années. L'idée de départ pour ces entreprises qui se sont développées, c'est que les gens... On a eu, au fil des ans, une pénurie de plus en plus grande d'offres. Et en fait, les réseaux d'agences qui permettaient aux acquéreurs de proposer plusieurs solutions pour leurs problèmes immobiliers ont logiquement se sont développés et ont permis de pallier à ce service, de fournir un service particulier pour les gens qui ne trouvaient pas, parce que, comme vous en parlez tout à l'heure, aucune offre sur le marché, aucune offre de plus en plus en pénurie au fil des ans.
On entend pas mal de spécialistes appeler un choc de l'offre. On est à quelques semaines de l'élection présidentielle. C'est un petit peu le silence assourdissant sur les propositions d'enlogement. Je ne sais pas si vous voulez en parler, parce que le choc de l'offre, vous parlez de pénurie de l'offre. Qu'est-ce qui va changer ça ? On n'est pas sûr que ça va s'arrêter, hein.
Le choc de l'offre, en fait, il dure depuis un certain nombre d'années et il est grandissant, effectivement, mais ça fait déjà plusieurs années que notre métier a évolué. C'est devenu moins un métier de vendeur qu'un métier de rentreur d'affaires. En fait, aujourd'hui, la demande est pléthorique. Les gens n'ont qu'une obsession aujourd'hui, c'est d'améliorer leur habitat et leur résidence principale. En revanche, l'offre est de plus en plus rare et tout notre métier aujourd'hui a évolué. Et en ce sens, il est devenu différent. Les acquéreurs aujourd'hui attendent de leur agent immobilier qu'il leur trouve la perle. Et donc, ils restent en attente de l'appel providentiel. Mais cette pénurie d'offres a changé ce modèle et a permis à ces agences dont vous parliez, nos concurrents, de prospérer sur un segment de marché très particulier qui est l'Ouest parisien.
On pense beaucoup que l'immobilier haut de gamme dans Paris et notamment dans l'Ouest est l'apanage des étrangers. C'est vraiment le cas ou les Français sont également bien présents sur ce segment ?
Alors, ça fait longtemps que je dis, et ça m'a valu pas mal de foudre, que l'acheteur étranger est un bluff marketing de certains agents immobiliers pour attirer le chaland. En fait, c'est complètement faux. Le marché parisien est entretenu par des Parisiens. C'est un marché de renouvellement qui est associé à des événements heureux. Le mariage, le divorce, la famille évolue et des événements.
C'est amusant de mettre les divorces dans les événements heureux et.
Je suis sûre qu'il y a des couples pour qui c'est très heureux.
J'ai dit malheureux, j'ai fait un lapsus.
Heureux,
pardon. Non. Les événements malheureux sont le divorce et le décès. Voilà, on peut caser le divorce dans un événement malheureux. Mais on peut le caser dans les deux parfois, ça dépend de quel côté on se place.
Et le fait que le marché soit un marché de renouvellement, ça vous rend heureux justement ?
Oui, en fait, oui, ça me rend très heureux. Parce qu'en fait, le fait que ça soit un marché de renouvellement crée un volume d'affaires qui devient en fait boule de neige. C'est-à-dire plus vous en faites, plus vous en faites. Et c'est ce qui fait prospérer ces business models dont on parlait tout à l'heure, et notamment notre société. Bien sûr, en fait, pourquoi ? Parce que quand quelqu'un achète un appartement, aujourd'hui, s'il n'est pas bien né, s'il n'a pas hérité, automatiquement, pour financer son acquisition, il vend un bien. Et c'est en ça qu'on tire notre épingle du jeu. Pour revenir aux acheteurs étrangers, donc je vous parlais d'un bluff marketing et preuve en est, puisque ça fait des années que je dis que le marché étranger, au niveau des chiffres sur l'Ouest parisien, en fait les transactions représentent à peine 3% des volumes. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte avec le Covid justement que les acheteurs étrangers n'étaient pas là et le volume de transactions sur Paris Ouest n'a fait qu'augmenter. Donc c'est bien la preuve matérielle de ce que j'avance, c'est-à-dire que c'est un micro-marché qui est limité à certains quartiers, et notamment à certaines rues, de plus en plus. L'argument marketing qui consiste à dire auprès de tel ou tel vendeur, nous avons des acheteurs étrangers, est en fait un mensonge pour lui faire croire qu'un acheteur étranger va payer plus cher et va acheter plus facilement. C'est stricto sensu l'inverse. Il paye moins cher, c'est plus compliqué parce qu'il faut plus de temps pour les convaincre et les mettre en confiance. Et ils ne sont pas aussi nombreux que ça.
Mais c'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas trop souffert du Covid alors ?
Non, effectivement, on n'a pas souffert du Covid à structure constante. Et même le Covid, par certains effets, a été très bénéfique pour l'immobilier parisien.
On voit que la reprise est incroyable
par certains côtés. Elle est incroyable en ce sens qu'elle a accentué la passion complète, totale et profonde des Parisiens pour l'immobilier, en ce sens qu'ils se sont rendus compte pendant la période du Covid que être bien logé avec sa famille dans des conditions optimum était capital. Donc en fait, quelqu'un, parce qu'on parle, quand on parle immobilier haut de gamme, tout est haut de gamme à Paris Ouest. Donc en fait, on parle de gens qui ont de l'argent.
Les gens qui ont de l'argent. Sauf les chambres de bonne.
Mais c'est haut de gamme, les chambres de bonne. Parce qu'une chambre de bonne à 12 000 euros du mètre, on parle d'une acquisition haut de gamme.
C'est un monsieur contre-intuitif. Les divorces sont heureux, les chambres de bonne sont luxueuses. On va s'amuser, je vous ai dit aujourd'hui.
Quand on parle effectivement d'un prix du mètre carré qui dépasse 10 000, on parle de haut de gamme. Donc en fait, de prestige, quelle que soit la surface. D'ailleurs, il est plus difficile de vendre une chambre de bonne à 12 000 euros du mètre qu'un hôtel particulier à 12 millions d'euros.
Oui, je veux bien vous croire.
Parce que quand quelqu'un a 120 000 euros, il n'a pas 150 000 euros. Par contre, quand quelqu'un a 12 millions, il a 15 millions.
Ah oui. Eh bien, il y en a une qui connaît presque aussi bien que vous cet Ouest parisien, c'est Vanessa Lovera. Elle travaille avec vous puisqu'elle est directrice d'agence dans ce groupe consultant immobilier dont on est en train de cerner les contours. Et alors, je ne sais pas si tous vos consultants immobiliers ont des noms de stars comme ça, hein, Vanessa Lovera. En tout cas, je vous propose de l'écouter. Vanessa Lovera, bonjour. Vous êtes directrice de l'agence dans le 16e, dans ce groupe consultant immobilier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous travaillez avec Roger Abécassis depuis longtemps. Ça fait combien de temps? Vous pouvez nous raconter ce qui vous lie depuis si longtemps? Comment ça se passe?
Alors, comment ça se passe? Je travaille chez Consultant et donc avec Roger Abécassis depuis un peu plus de 8 ans, 9 ans, je crois. En fait, j'avais ma propre agence dans le 16e et à ce moment-là, c'était soit je me développe en tant que voilà Vanessa Lovera immobilier, soit j'intègre un grand groupe avec toutes les perspectives possibles. Et j'ai choisi la deuxième option, ce qui m'a amenée chez Consultant Immobilier.
Et comment qu'est-ce qui vous a séduit? Pourquoi vous l'avez rejoint?
Alors, j'ai aimé, déjà, c'est un homme passionné par son métier, comme je l'étais. C'est un entrepreneur qui sait prendre des risques parce que quand il m'a recruté, ben en fait c'était au siège, hein, donc c'est un superbe endroit de 400 mètres carrés. Et moi j'arrivais de ma petite agence de quartier, voilà. Et donc j'ai aimé déjà voilà l'entrepreneur, la passion. Il est talentueux. On a la même vision de ce métier. C'est qu'on aime les gens et on a partagé ces grands moments de vie qui sont des achats d'appartements. C'est sur ça qu'on
quand vous dites quand vous dites quelqu'un de talentueux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a à voir avec la relation humaine par rapport au client? Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, en fait, je pense que ce métier, on ne peut pas le faire bien si on n'aime pas les gens, mais tous les gens. Vous voyez, du primo accédant qui va casser la tirelire pour acheter son premier studio, à celui qui va nous acheter un hôtel particulier de 1000 mètres carrés. Et en fait, voilà, je le vois et je le vois au quotidien et même avec ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui aime les gens.
Et voilà, comme manager, quel est-il? Vous en avez eu plusieurs dans votre vie. Qu'est-ce qu'il caractérise?
Alors, comme manager, il est à l'écoute. Il est exigeant, mais à l'écoute. Il est très humain. Ça veut dire que parfois, voilà, on est, je crois, à 72 aujourd'hui dans le groupe. Donc, on a des hauts, des bas, on a nos vies privées. Et je sais qu'il est toujours dans l'écoute, la bienveillance, prêt à nous aider, même sur des projets persos. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Il est disponible. Je ne sais pas comment il fait, mais il est disponible pour tous.
Voilà pour le témoignage de Vanessa Lovera. C'est plutôt agréable d'entendre de si gentilles choses sur soi-même.
En fait, j'aime pas trop parler de moi et d'entendre des témoignages, c'est assez gênant, mais c'est très agréable en fait, j'apprécie.
En tout cas, vous avez l'air de voir le marché et l'immobilier et le métier de la même manière, hein, tous les deux.
Ah, écoutez, on peut pas faire ce métier sans passion complète, totale. C'est un métier très particulier en ce sens qu'on rentre vraiment dans la vie des gens, dans leur intimité. C'est ça qui le rend passionnant et en même temps, ça demande une exigence très particulière. C'est un métier qui parfois est inconfortable parce que vous êtes coincé entre deux parties qui veulent deux choses radicalement différentes. Un vendeur qui est ambitieux, un acheteur qui est ambitieux en baissant son budget. Et du coup, c'est compliqué de mettre ces deux personnes d'accord tout en leur prouvant que nous sommes les avocats mutuels. Et en fait, on se rend compte qu'on peut tourner à droite, tourner à gauche. Quoi qu'il arrive, les transactions se font dans un prix d'équilibre qui a été décidé par nous en amont. Et on a très très peu de surprises quant au prix final.
D'ailleurs, j'ai décrit très très sommairement le groupe. Vous pourriez nous dire où est-ce que vous êtes présent, où est-ce qu'on peut vous trouver et comment vous êtes développé? C'est l'occasion de revenir sur le parcours de la société.
Alors le constat, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le constat était simple en 94. Le métier est toujours très artisanal et on tient à ce qu'il le reste. C'est un métier d'artisan. Mais à l'époque, vous souriez, vous rappeliez les gens et déjà vous aviez éliminé 80% de la concurrence. Donc c'était assez facile de s'exprimer parce qu'il n'y avait pas et il n'y a toujours pas d'évolution technologique qui rende ce métier stressant en attendant un concurrent qui va monter une solution meilleure que la vôtre. En fait, c'est vraiment un métier de prestation de services humain. On a démarré sur un constat que, compte tenu de cette pénurie d'offres dont on parlait, même à l'époque, l'idée c'était de développer un réseau d'agences propres qui nous rendent libres de nos choix, de nos décisions, de faire ou de ne pas faire. Et donc on a développé sur tout l'Ouest parisien, donc tous les arrondissements ouest, des emplacements qu'on a aussi fait évoluer dans le temps pour avoir notre stratégie, elle est simple, c'est d'avoir les plus belles agences possibles parce qu'en dans notre quête d'offres, les gens doivent s'identifier à un lieu et un lieu proche. Donc on est présent dans chaque arrondissement parisien de telle manière à susciter de l'envie chez les vendeurs de venir nous voir.
Mais ça suffit plus le sourire, vous dites à l'époque ça suffisait de sourire, de rappeler les gens. Alors rappeler le téléphone, je veux bien croire ça continue. Le sourire, ça, votre sourire, il suffit plus ?
Il suffit toujours en fait, parce qu'on se rend compte que c'est un métier qu'on cherche à digitaliser. Et en fait, j'étais il n'y a pas très longtemps au salon Rent.
Nous aussi, Radio Immo était très présent, effectivement. Ouais.
Et je me suis rendu compte que les solutions digitales étaient des solutions accessoires, mais tout tournait autour de la prestation de service. Et la prestation de service est une rencontre entre deux, un homme, une femme, et un autre homme, une autre femme. Et s'il n'y a pas une empathie, s'il n'y a pas une confiance, toute solution digitale est superflue. Le digital aujourd'hui dans notre métier est un support qui permet un support publicitaire, qui permet d'avoir l'information le plus vite possible et de donner une information très directement à nos clients. Mais ça reste ça demeure un métier d'artisan, ce que je trouve très confortable.
Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Il y a 10 000 façons d'être agent immobilier aujourd'hui. Il y a ceux qui ne font qu'envoyer des mails. Il y a ceux qui n'ont même plus de vitrine physique. Ouais. Et puis, il y a encore ceux qui le font, entre guillemets, à l'ancienne. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'ils vont un peu prospecter, qu'ils sont tous les jours au café du quartier pour connaître un peu les potins et savoir éventuellement ce qui peut se vendre. Comment est-ce que vous exercez aujourd'hui ?
Alors, moi, je préfère la deuxième solution. C'est-à-dire, je n'imagine pas ce métier sans ce que vous venez de décrire. C'est vraiment une rencontre, l'immobilier. Et aujourd'hui, je considère, surtout dans notre secteur d'activité, vous savez, quand vous faites des transactions à plusieurs millions d'euros, l'acquéreur et le vendeur ont une histoire à raconter. Si vous vous renseignez sur eux, ils ont une histoire, une aventure industrielle, une aventure d'entreprise, de start-up, peu importe, financière. Et ce sont des gens très avertis, très intelligents, très fins, très exigeants. Et s'il n'y a pas une rencontre physique avec une empathie, une confiance qui naît, il ne se passe strictement rien. Les business models dont vous parlez, on les a vus passer depuis des années, sans rencontre, digitaux, et on se rend compte que ça ne marche absolument pas. Au même titre que les agences immobilières low cost sur notre secteur essayent de s'implanter, ça ne marche pas. Parce que on ne peut pas faire ce métier sans mettre les moyens de ses ambitions sur la table, et ça demande beaucoup d'exigences financières en termes d'investissement, de marketing, et pour avoir la meilleure clientèle possible et pouvoir réconcilier l'offre et la demande. Donc en fait, c'est aujourd'hui il y a certes une baisse du niveau des honoraires. Compte tenu de l'évolution des prix, ce qui est normal, ça reste quand même beaucoup d'argent, mais toujours des honoraires qui restent convenables pour pouvoir tirer la profession vers le haut et exercer notre métier en toute quiétude.
Puisqu'on ne le dira jamais assez, mais agent immobilier, c'est un vrai métier. Il faut des compétences commerciales, des compétences juridiques, et pas être simplement un porte-clés.
Je pense que l'image de l'agent immobilier qui gagne beaucoup d'argent sans rien faire est complètement révolue. Les gens en ont bien conscience.
Ça veut dire que ça a existé ?
Non, l'image. Oui, l'image a existé.
Mais dans les faits.
Et j'ai le sentiment aujourd'hui, quand je regarde mes concurrents, qu'il y a une vraie volonté de tirer vers la profession vers le haut. Et ça me fait très plaisir. Et je pense qu'il y a une vraie volonté de prouver que l'agent immobilier est juste indispensable pour une transaction, surtout à un certain niveau.
Mais peut-être aussi parce qu'il y a une concurrence qui n'existait pas il y a quelques années, c'est celle du particulier.
Oui, mais sur notre secteur d'activité, c'est mon secteur d'activité, donc on parle d'un micro-marché sur ce secteur particulier qu'on appelle faussement haut de gamme, parce que tout est haut de gamme sur Paris. Le particulier n'a pas ses lettres de noblesse. Au-delà du million d'euros, en fait, sur Paris, le particulier n'y est plus. En fait, quelqu'un qui essaye de passer au travers des services d'une agence immobilière, souvent, et j'ose le dire, cache quelque chose quant au produit ou au bien qu'il vend.
Un petit mot de Paris qui est présenté comme étant l'écrin d'une offre très très luxueuse, des appartements luxueux. Est-ce que son attractivité est toujours aussi importante? Vous, au fil des années, vous travaillez ce marché. Bien sûr, on parle des quartiers les plus florissants, vertueux de la capitale. Mais voilà, il y a une concurrence des métropoles. Alors comment ça se passe, votre regard sur l'attractivité de Paris?
J'ai le sentiment que l'attractivité pour Paris est de plus en plus grande. Si je compare à une ville comme New York, l'avantage de Paris est que c'est une ville fermée. Tant que le périphérique existera, le Paris demeurera un petit marché, sans, ou alors avec très peu de construction, des rénovations lourdes, mais pas de construction. Donc c'est un métier, encore une fois, cette ville fermée, comme New York est fermée par les fleuves qui l'entourent, et encore, ils ont trouvé la solution de s'élever dans le ciel, et c'est comme ça qu'ils développent l'immobilier. À Paris, c'est pas possible. Donc, ou alors, oui, il y a eu une législation sur les surélévations, mais bon, c'est vraiment, c'est pas, on parle pas de grands projets ou de multiples projets. Et donc, du coup, ce marché fermé va ne faire que rendre son attractivité de plus en plus grande au fil des ans.
Vous parlez de New York, mais vous êtes implanté en Floride. Comment c'est venu? Est-ce que la stratégie internationale, elle va connaître un second souffle?
Alors, sur la stratégie internationale, on avait juste des clients, c'est parti d'un constat, c'est-à-dire qu'on avait des clients qui étaient très demandeurs d'achats immobiliers outre-Atlantique, et notamment, bien sûr, au soleil plutôt que sous la neige. Et donc, Miami est un marché très actif qui fait que on a fait jouer des synergies comme on le fait avec notre agence de Normandie, avec une certaine typologie de clientèle qui ont même franchi le pas d'aller vivre sur place. Donc, on crée une sorte de passerelle pour des clients français entre la Floride et la France.
C'est votre marque ou c'est un partenariat?
Non, c'est notre marque. En partenariat, on est en partenariat avec à Londres, par exemple, avec le numéro 1 de l'immobilier de prestige qui s'appelle Chesterton, qui est une société qui a 200 ans, qui a des très belles agences à Londres, et on est en partenariat exclusif avec eux sur Paris.
Du coup, c'est quoi? C'est de l'échange de mandats, c'est ça?
C'est de l'échange de clients plus que de mandats. Ils ont une certaine typologie de clients qui ne sont pas présents du tout sur le marché à Paris et qui sont une typologie de clients très intéressante pour nous. Et vice-versa, bon, un peu moins aujourd'hui, mais quoique, il y a une clientèle parisienne qui a migré à Londres, et ils étaient complètement perdus en arrivant, et ce partenariat permet de les accueillir de manière correcte.
De pas les laisser livrer à eux-mêmes.
Livrer à eux-mêmes, c'est un marché très compliqué. Londres est un marché très compliqué.
Je disais qu'on allait voyager avec Roger Abécassi, ça y est, on est aux États-Unis, et il y en a qui apprécient là, ces déambulations. C'est votre ami, dans cette émission, on a l'habitude de demander quelques témoignages de proches, et c'est la première fois que je constate que vous nous avez incité à appeler un journaliste spécialiste de l'immobilier, et voilà, il donne de vous un portrait haut en couleur.
Effectivement, on a contacté Bruno Monnier-Vinard, qui est notre confrère du Point, spécialisé dans l'immobilier, et qui nous a parlé de vous sans langue de bois. On l'écoute tout de suite.
Bruno Monnier-Vinard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point, une référence dans le secteur immobilier, et donc vous avez eu affaire avec Roger Abécassis. Vous qui connaissez toutes les personnalités de ce secteur, comment vous paraît-il, Roger Abécassis?
Alors, aussi tonique et charmeur que Jean-Paul Belmondo, Roger Abécassis, c'est le professionnel et l'as des as. Pilote d'avion de tourisme, il s'est fait une place au soleil dans le marché de la haute voltige des belles pierres de l'ouest parisien. Et le slogan de son groupe consultant immobilier, le luxe en toute simplicité, colle bien à cet homme qui se prend jamais au sérieux. Moi, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années quand il avait vendu un appartement près de la Tour Eiffel à une journaliste du Point. Et depuis cette époque, j'ai pu l'observer, fixer et maintenir le cap de sa flottille qui compte maintenant une quinzaine d'agences, dont le splendide navire amiral de la place du Costa Rica à Passy. Alors là, Vraiment, c'est la croisière s'amuse et drôle de dame réunie avec Roger Abicassis en Charlie qui est entouré d'Amazon, qui a un copilote qui s'appelle Patrick Goldberg, qui est avec lui depuis le début de l'aventure et qui freine un peu les ardeurs de Roger, sauf lorsqu'il s'agit de mettre le turbo pour ouvrir une nouvelle agence au Parc Monceau, avenue Victor Hugo ou à Deauville, qui fait un carton. Il y a aussi à côté de lui Philippe Verret, qui est donc le directeur de la communication du groupe et qui s'occupe du magazine Consultant Immobilier, qui a un ton et un contenu rédactionnel assez décalé. Comme Roger, collectionne les meubles des années 70 et les peintures abstraites. Et dans son appartement parisien, on s'attend toujours à voir surgir Mireille Darc dans le grand blond avec une chaussure noire. Et ce que je voulais dire, c'est que malgré l'envolée de son chiffre d'affaires, qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, le boss n'est pas du tout hors sol. C'est même tout le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on l'interviewe, il adore aller sur le terrain et soulever le capot pour expliquer aux journalistes quelle est la différence entre un rez-de-chaussée et un dernier étage ensoleillé, une terrasse, qu'elle soit en rooftop ou de plein pied, pour estimer sa valeur, ou bien lever le voile des coulisses d'un hôtel particulier, de la très chic Villa Montmorency. Et je terminerai en disant que à Passy, ce mari et ce papa attentionné connaît tout le monde. Il serre les mains dans la rue, dans les restaurants. Et je ne serais pas surpris si un jour, le buste de jeune premier de cet as des as de l'immobilier parisien premium, il va souvent à la salle de sport au Braque, arbore l'écharpe tricolore de maire du 16e arrondissement.
Ça vous intéresse la politique, Roger Abicassis ?
Ça m'intéresse, mais pas pour y être acteur. Non.
Pas peine de vous demander si vous avez vos parrainages alors.
À Passy, apparemment, il les aurait en un tour de main.
Je ne sais pas.
Quel beau portrait. On remercie ce confrère qui semble vous résumer, nous faire gagner du temps dans la découverte de votre personnalité. On a l'impression que vous pourriez vous étendre d'autant plus, vraiment grandement, avec ce tel succès, ce talent que vous avez.
J'ai un coup de cœur pour Bruno Meunier-Vinard, parce que dans le milieu du journalisme immobilier, avec Yves Legris du Nouvel Obs, c'est une référence et c'est très agréable d'échanger avec lui parce qu'il est très à l'écoute, mais vraiment très à l'écoute, et il va chercher l'information très en détail, ce qui ne se faisait pas jusqu'à présent. Donc on arrive à échanger en profondeur sur le métier d'agent immobilier, sur notre marché, et c'est vraiment un journaliste qui a une plume extraordinaire. C'est un plaisir de l'écouter plus que de le lire encore, et je le remercie pour...
Il a d'ailleurs sévi effectivement chez Radio Immo pour le plus grand bien de la station. Il nous a donné quelques pépites. Alors vous êtes pilote d'avion, racontez-nous cette passion, c'est dangereux quand même.
Non, c'est une passion qui dure depuis 25 ans. C'est une activité qui est intéressante en ce sens que quand on vole, quand on pilote, on ne peut penser qu'on est très concentré sur... Moi, j'ai tendance à me disperser, à penser à beaucoup de choses en même temps. Sauf quand je suis aux commandes de l'avion, je suis obligé d'être concentré, surtout quand j'emmène ma famille. C'est une vraie passion qui, en plus, permet d'aller d'un point A à un point B en toute liberté. Voilà, j'adore ça. Et c'est aussi un backup au cas où je veux changer de vie un jour. Je pourrais aujourd'hui, avec mes licences, me vendre auprès d'une compagnie.
Mais alors, il me reste une question après le témoignage de Bruno. Plutôt l'As des As ou plutôt Charlie et ses drôles de dames ?
Non, c'est ça, Charlie et ses drôles de dames, j'aime pas trop ça. Mais j'ai un vrai problème dans mon entreprise et surtout dans le recrutement. On parle souvent de parité, moi j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que je demande et je réclame des hommes, envoyez-moi des hommes, je vous en supplie.
Vous êtes quand même à peu près le seul à avoir ce problème dans l'immobilier.
Mais c'est terrible parce que je suis convaincu que ce n'est pas un métier uniquement de femmes, mais il n'y a que des femmes qui postulent, je n'en peux plus. Et je suis vraiment demandeur de candidature homme. Les hommes qui travaillent chez nous se perdent.
Et ce matin, en plus,
j'ai vraiment je suis à l'inverse de la tendance. C'est horrible.
Allez, le temps de résoudre vos problèmes, on va faire une petite pause musicale avec votre deuxième choix. Ça s'appelle Move On Up, c'est signé Curtis. Et avant qu'on l'écoute, je vous laisse nous présenter ce morceau.
Non, simplement, j'ai pas une présentation particulière. Il y a des chansons qui me font complètement rêver. Quand je les écoute le matin au réveil, ça me permet d'avoir une pêche d'enfer. Et ce morceau en fait partie. Et encore voilà. Une fois, il représente une période et une ambiance que j'adore.
C'est une très belle présentation. Allez, on écoute Movanap.
Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication.
de l'Immo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.
Et nous sommes de retour dans ce Mac de l'Immo, deuxième partie, avec notre grand témoin du jour, Roger Abécassis, le président de Consultants Immobilier, qui est avec nous, qui nous parle d'immobilier haut de gamme, même si il paraît qu'à Paris, tout est haut de gamme.
C'est ce qui, c'est ça, une, ça, ça, ça vous une a des idées qui pourra retenir.
J'ai bien aimé la chambre de bonne haut de gamme. Je vais le garder dans un petit coin. Alors, on a parlé d'immobilier, on a parlé d'avion. Vous avez d'autres passions. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites ni de l'avion, ni de l'immobilier?
Alors, j'ai une grande passion pour mes enfants. Et
combien vous en avez?
J'ai deux enfants qui grandissent et de les voir s'épanouir, être heureux dans leurs études et baigner dans le bonheur me réjouit. Rien d'autre.
Est-ce qu'ils sont assez grands pour avoir développé une passion pour l'immobilier ou ça viendra?
Écoutez, j'ai été très surpris parce qu'ils ont fait chacun, dans le cadre de leur étude, un stage chez nous. Et j'ai été surpris de les voir évoluer dans l'entreprise. C'est même un choc et en même temps, ça m'a ravi. Et je me suis projeté dans l'idée qui était... J'avais une idée complètement opposée, c'est-à-dire que la transmission d'entreprise, pour moi, ce n'était pas une solution. Et de les voir s'épanouir dans l'entreprise au travers d'un stage, ça m'a fait entrevoir la possibilité qu'un jour, un ou l'autre, ou les deux, pourraient reprendre l'entreprise.
Ça veut dire qu'avant cela, vous ne vous étiez jamais dit que, éventuellement, les agences pourraient revenir à vos enfants?
Bah écoutez, c'est avoué qu'on a vieilli un peu, donc ça me peine. Je préfère pas réfléchir comme ça, mais avançant, oui, de plus en plus.
Et puis, quand même, on a parlé de sport en quelque sorte avec le pilotage d'avion. Moi, j'entends que vous n'êtes pas étranger au monde de l'art. Bruno le disait dans son témoignage. Votre magazine, on peut le consulter sur votre site internet, fait la place à Philippe Starck, vous parlez de Sophie et Lola Seguela, de la collection de François Pinault. Vous pouvez nous en parler vous-même de peut-être votre regard sur l'art et puis ensuite ce lien que vous semblez faire entre art et immobilier, s'il vous plaît.
En fait, ce magazine est un peu l'ADN de la société. Ça fait 15 ans qu'il est édité. C'est quelque chose qui est complètement fait maison, notamment grâce à deux journalistes et aussi Philippe Véret, dont a parlé Bruno, le directeur de notre communication, Clémentine qui l'assiste. On essaye de faire un magazine et de se faire plaisir en même temps. C'est un semestriel et donc sa caractéristique principale, c'est d'avoir un people ou quelqu'un des affaires ou un politique ou un philosophe en couverture qui est facilement reconnaissable. Donc ça, c'est vraiment, ça représente 50% de notre budget publicité. C'est volontairement en presse papier. C'est en quelque sorte la vitrine de notre société, et son contenu correspond vraiment à qui nous sommes, est très cohérent, et on se fait plaisir sur ce qui nous passionne, et ça crée un vecteur d'information pour dire qui nous sommes, et ça, c'est très important pour nos clients de savoir exactement, et donc tout son contenu est cohérent avec qui nous sommes.
Quelles sont les dernières stars ou les personnalités que vous ciblez, puisque vous dites qu'il y a toujours une star à la une?
Alors, on avait Philippe Starck dans le dernier numéro, comme vous l'avez dit, on a bien sûr toutes nos annonces immobilières au travers de ce magazine, mais aussi des articles sur l'architecture, sur le design, sur la mode, sur le lifestyle, et surtout sur... Et bien sûr, sur une passion qu'on a en commun, c'est l'architecture. Le prochain magazine va sortir au printemps. Et a priori, en couverture, on aura la chance d'avoir Claude Lelouch. Donc voilà. On alterne. Ça peut être le monde du cinéma. On a eu Seguela, on a eu Julia Roberts, on a eu Penelope Cruz, on a eu Claudia Schiffer. Enfin, on a vraiment Pierre Cardin, Karl Lagerfeld... Donc on alterne hommes, femmes de différents milieux, on se fait plaisir. Donc et à chaque fois, cette personne est interviewée en lien avec ses goûts immobiliers. Donc vous retrouverez en début de magazine une interview qui est vraiment liée à son habitat et ses volontés en matière d'immobilier.
Qu'on comprenne bien, ça veut dire que vous avez une équipe finalement éditoriale au sein de vos effectifs?
Oui, on sous-traite certaines prestations, mais l'équipe, oui, on a une équipe éditoriale au sein pour le magazine.
Je crois que c'est absolument inédit ça. Hein
Oui, c'est un peu notre marque de fabrique. Ça permet d'être complètement libre et d'écrire ce qu'on souhaite et ce qui nous fait plaisir. Donc ça, c'est vraiment très agréable.
Et comment vous est venue cette idée de publier finalement ce magazine?
C'était un peu à contre-courant de ce qui se faisait, de cette mode digitale et d'Internet. C'est, par exemple, quand j'achète Le Point, moi j'aime l'acheter en papier, le lire de A à Z en papier, d'aller au café, de prendre mon point et de le lire. Et je n'aime pas le lire sur une tablette, donc je suis un peu à contre-courant de ça. Et j'avais le sentiment que la presse papier ce choix me concernant était partagé par beaucoup de monde. Et ils adorent feuilleter le magazine physiquement et ne pas le lire sur une tablette. Après, bien sûr, on reprend la plupart des articles sur notre site internet ou sur d'autres supports internet généralistes.
Et est-ce que vous ne seriez pas un petit peu nostalgique, hein? les petites pierres qui sont égrenées dans cette émission, c'est Mireille Darc, Jean-Paul Belmondo.
C'est pas moi.
Et des stars vraiment éminentes, hein? J'adore voir les films. Et puis là, ce dont vous parlez, le magazine papier, que j'apprécie par ailleurs, ce monde d'aujourd'hui, de la data, du digital, il vous fait peur un petit peu?
Non, il me fait pas du tout peur. On y travaille, donc je ne l'ai pas rejeté, mais il n'est rien concernant notre métier sans un contact physique et une prestation complètement. On fait vraiment une prestation de service. Ce n'est que des relations entre hommes.
Et vous parliez de lifestyle, de tendance, même s'il y a une équipe éditoriale qui travaille, j'imagine que vous avez un œil dessus, que vous parliez d'architecture, de ce qui vous passionne. Vous pourriez nous citer une des tendances que vous trouvez intéressantes dans l'évolution de, à la fois de l'architecture, l'urbanisme, la ville, vous qui avez un regard acéré sur ce domaine?
Alors, j'ai l'impression que enfin les architectes aujourd'hui se lâchent et créent des vrais bâtiments incroyables, mais pas en habitation. En résidentiel, on a vraiment le sentiment d'une volonté d'optimisation permanente. Mais par contre, tout ce qui est bâtiment public, musée, il y a des vraies innovations et c'est dommage qu'on les retrouve pas en matière d'habitation. Des réalisations comme la Fondation Louis Vuitton, par exemple, en matière d'architecture, c'est juste dingue. Et ça remet l'architecture au goût du jour avec des architectes qui osent. Mais malheureusement, dans notre secteur d'activité, les architectes n'osent pas. Et on aimerait retrouver des grands halls d'entrée, des belles résidences. Mais malheureusement, tous les mètres carrés sont optimisés et on cale toujours deux appartements autour d'une porte d'entrée. C'est bien malheureux.
Moi, j'ai l'impression que Roger Abécassis, il renouvelle à chaque fois les genres. Lorsqu'on demande le témoignage d'un proche, en général, nos invités, et je les en remercie, nous donnent le contact de leur épouse, de leur fils. Et vous, vous me dites, mon ami, c'est un banquier. Alors, c'est, pourquoi pas? J'ai pas dit qu'on peut pas être ami avec les banquiers. Mais vous trouvez, c'est curieux ces témoignages, Johanna, que vous nous présentez.
C'est un passionné, hein, voilà. Je crois qu'on peut pas, dire autrement. Non, je suppose que ça fait partie de ces vieilles relations professionnelles qui finalement deviennent de l'amitié.
Ce n'est pas une relation professionnelle, non.
Vous n'avez jamais collaboré, en tout cas, des rapports professionnels.
On parle du président des Banques Populaires,
oui,
et de Seine.
Yves Gégerin,
c'est quelqu'un en fait que j'ai rencontré dans le cadre d'une association où on se réunit tous les premiers jeudis du mois avec un philosophe, un politique, un économiste, et on essaye de s'améliorer pendant une demi-journée, d'écouter et d'apprendre énormément. Ça depuis 15 ans et je l'ai rencontré dans ce cadre-là.
S'améliorer à tout point de vue
S'améliorer à tout point de vue.
Je comprends, je connaissais pas ce concept, on en a tous besoin, bien sûr. Mais...
C'est juste en fait une demi-journée qui permet de sortir de son cadre de vie habituel et de s'élever un petit peu en écoutant une personne qui excelle dans son domaine et d'essayer de s'améliorer et surtout d'essayer d'appliquer les préceptes à son entreprise et à la vie de chef d'entreprise. Et justement, ça peut être des choses très pragmatiques, des enseignements très pragmatiques. Et donc j'ai rencontré Yves dans ce cadre-là et c'est un vrai bonheur de l'avoir rencontré. Il a présidé cette association pendant un temps. C'est quelqu'un d'une humanité, d'une intelligence rare et qui a d'ailleurs été président de Foncia un temps et qui après a rejoint la banque classique à la Banque Populaire Rive de Seine.
Et vous êtes tous les deux devenus la meilleure version de vous-même.
Écoutez, c'est vraiment quand vous fréquentez quelqu'un de cette qualité et que vous échangez que sur des bonnes choses, et notamment on échange en matière d'art, tous les deux, on échange nos goûts, ce n'est que du bonheur.
Allez, on écoute le témoignage d'Yves Gévin, on l'a dit, il est président de la Banque Populaire Rive de Seine, et il nous parle de notre grand témoin Roger Abécassis.
Yves Gévin, bonjour, vous êtes directeur général Banque Populaire Rive de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Alors, vous connaissez depuis longtemps Roger Abécassis. On peut parler d'amitié entre vous ?
Oh oui, on peut dire que c'est un ami. On se connaît depuis 10 ans maintenant et j'apprécie beaucoup Roger Abécassis.
Alors, qu'est-ce qui fait que vous appréciez mutuellement ? Quelle qualité voyez-vous chez lui ?
C'est une personnalité d'abord très, très riche, hein, Roger. Moi, je le connais sur un plan d'abord professionnel, parce qu'on fréquentait ensemble un club de chefs d'entreprise où on a appris à échanger de façon très, très ouverte, très franche, très libre. Et j'ai pu découvrir un homme qui est à la fois, on va dire, très ambitieux dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, qui est entreprenant, qui est courageux, qui est visionnaire et qui pousse une ambition professionnelle, une vision de son activité que je trouve extrêmement intéressante. Mais c'est en même temps quelqu'un qui a des vraies passions à côté. Il se trouve que ces passions qu'il a à côté, elles nous sont communes. Il aime beaucoup le pilotage d'avion. Moi, j'avais un temps aussi pas mal investi dans ce domaine-là. Et puis, il est passionné d'art moderne en particulier. Et c'est quelque chose qui nous a amené plusieurs fois à échanger là-dessus. Voilà, il y aurait probablement plein d'autres choses à dire.
Alors, pour le connaître un petit peu mieux dans l'art moderne, quels sont les artistes qu'il suit particulièrement, peut-être que vous appréciez aussi ?
C'est difficile de les lister tous. On a des échanges variés sur le sujet. Il y en a un qu'il aime, je sais, énormément. C'est Bernard Buffet. Voilà, il me parle souvent de Bernard Buffet. Il est fasciné par l'art de Bernard Buffet. Voilà, mais on n'a pas forcément des goûts que communs, mais on est tous les deux passionnés d'art et on aime en parler ensemble.
Également, c'est un professionnel de l'immobilier, un grand manager. Il a beaucoup sur les épaules. Il a quand même du temps pour ses amis ?
Oui, c'est quelqu'un qui aime les gens, fondamentalement. Et c'est peut-être ce qu'il recherche d'ailleurs aussi dans son métier, qui est un métier de contact, un métier de relations humaines. Il est très affectif, il a un tempérament généreux, il aime échanger, il aime se donner du temps aux autres. Et il sait le prendre, et donc du coup, on a des moments souvent très, très sympathiques de partage ensemble, au-delà même du cadre purement professionnel. Et c'est quelqu'un de voilà, je le disais tout à l'heure, de qui a une personnalité très riche. Il est en même temps très très indépendant, hein, c'est un esprit libre. En même temps qu'il est curieux, il est capable de se remettre en cause, mais en même temps il a des fondamentaux auxquels il tient beaucoup. Et donc c'est quelqu'un qui est toujours très très intéressant à challenger, parce que voilà, il y a ce mélange assez complexe de dimensions très subjectives et affectives, et en même temps de grande rigueur dans la construction mentale et dans la vision à la fois professionnelle, mais aussi de la vie qu'il a sur le fond.
Là, il vous écoute sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ?
Eh bien, que c'est une très belle rencontre. Je suis très, très heureux de le connaître et j'espère qu'on aura encore plein de choses à se raconter et à faire ensemble.
Si tout le monde avait un banquier aussi sympathique, je ne sais pas, Johanna, si vous avez de telles relations avec votre banquier, je vous le souhaite.
Pas vraiment.
Comme tout le monde.
Fabienne, ce n'est pas mon banquier.
Non, mais je plaisante comme il est.
Mais
banquier,
je suppose qu'on peut être ami et banquier en
même
temps.
Ouais, non, mais par contre, prenez-le comme banquier parce que. Je pense qu'il faut là.
C'est un sujet là.
C'est un sujet. Un autre sujet, c'est Bernard Buffet. Moi, j'aime bien parce que je ne crois pas qu'avant vous, on ait pu en parler dans cette émission. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'œuvre de Bernard Buffet ?
Ce qui me plaît déjà, c'est la vie de Bernard Buffet, qui est juste incroyable, qui a surfé sur des périodes avec, j'adore ça, avec des yo-yo de très grands succès. Dans les années 60, Bernard Buffet, c'était le passage obligé. Et du coup, comme il avait beaucoup de succès, on le taxait d'être trop commercial, ce qui était complètement faux. Et aujourd'hui, justement, le marché lui rend grâce. J'adore tout ce qu'il fait, j'adore la signature, j'adore les paysages, j'adore les portraits. J'adore ses premières œuvres, ses premières périodes à partir de 48. jusqu'au début des années 50. J'adore les couleurs. Et puis, il raconte à chaque fois, chaque tableau, il raconte une histoire. J'ai une vraie passion pour ce peintre.
Alors, pour les collections, ça vous amène à voyager? Enfin, je ne parle pas en temps de Covid, c'est en train de se détendre, heureusement, mais vous êtes capable, intéressé, d'aller ici ou là pour voir les dernières pièces? Voilà, quel type de collectionneur êtes-vous? Parce que quand on vous entend, là, on sent celui qui est très mordu.
Oui, c'est... Bernard Buffet, le problème, c'est que la plupart des collections, quand elles ne sont pas en France, elles sont au Japon. Donc, c'est un petit peu loin. Et d'ailleurs, c'est ce pays qui accueille le seul musée consacré à Bernard Buffet au Japon. Et donc, mon grand rêve, ça serait d'aller, d'ailleurs, j'adore ce pays, et d'y retourner, de visiter ce musée qui est un peu excentré par rapport, qui est au centre du Japon. Donc, je me suis dit que j'irai le visiter très bientôt.
Donc, de retourner au Japon? Par contre, vous n'avez encore jamais vu ce musée?
Je ne l'ai pas vu, non. Donc,
mais comment ça se fait que vous soyez déjà allé au Japon et jamais dans ce musée?
Bah, écoutez, c'était pas le tracé prévu par ma femme, donc je lui en ai voulu énormément, donc du coup, je suis obligé d'y retourner. Enfin, c'est un pays qui mérite au moins 4 ou 5 déplacements très vite. Hein. C'est juste extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré.
Est-ce que ce thème, ce credo, le luxe en toute simplicité, ça sonnait bien? Ou c'est vrai, quand on vous voit, on sent que vous le portez bien, hein, ça fait penser à certains philosophes d'ailleurs, la belle chemise blanche, pour ceux qui vous écoutent.
Vous m'avez comparé.
Ça vient comme ça, hein.
Ce slogan est très important parce qu'on l'a créé nous-mêmes, parce qu'il nous ressemble. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du luxe, mais on l'a choisi, oui et non. De par nos emplacements, on fait du luxe. Et on le fait comment? En toute simplicité. Donc c'est vraiment notre marque de fabrique et ça souligne bien notre ADN. C'est court, c'est simple et c'est vraiment précis nous concernant. Ça représente bien notre image et notre façon de voir ce métier.
Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, Roger Abécassis. Ça passe très très vite. Hein.
Donc c'est trop court. J'en redemande.
Eh bien, il faudra revenir. Pour l'instant, je vois que ça.
Avec plaisir.
Vu qu'on est un peu compressé sur la grille. Il nous reste quelques minutes. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont vos projets à venir, que ce soit professionnellement ou personnellement?
Alors, professionnellement, on a beaucoup d'ambition avec mon associé sur l'évolution de cette société qui est un peu notre bébé qu'on fait grandir depuis 28 ans. On a eu beaucoup de périodes difficiles, de périodes enthousiasmantes. En ce moment, on est dans une période enthousiasmante parce qu'on arrive à avoir la confiance de nos banquiers qui sont très à l'écoute de notre évolution et qui sont prêts et qui sont même très volontaire pour financer des nouveaux projets. Aujourd'hui, l'entreprise, la marque est bien implantée sur son secteur d'activité. Elle correspond exactement, l'image qu'on me renvoie correspond à qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment épanouissant et satisfaisant. On souhaite vraiment développer l'entreprise en améliorant toujours plus les lieux où on accueille nos clients et en imaginant des nouvelles implantations, notamment dans le centre de Paris, 1, 2, 3, 4. IM arrondissement, dans le 9e arrondissement, où nous ne sommes pas présents. L'idée, c'est de terminer, de compléter la prestation pour pouvoir satisfaire nos clients dans tous les lieux où ils recherchent. Comme ils ne trouvent pas, en général, ils élargissent leur recherche et c'est là où on intervient. C'est un peu notre secret de fabrique.
Et pour le reste?
Pour le reste, tout va bien. Ma seule ambition personnelle, c'est de voir mes enfants finir leurs études et d'être aussi heureux qu'ils le sont aujourd'hui.
Ils sont dans quel domaine?
J'ai une fille de 21 ans qui est à Dauphine en troisième année et un fils qui est à l'IE à Madrid en première année.
Parfait, ça fait encore pas mal de projets, de belles ambitions et de belles années à venir.
J'espère. À 55 ans, ça devient compliqué maintenant.
Ça va, vous avez le temps.
J'ai du mal avec ça, je vous l'avoue.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous, c'était vraiment très agréable.
Pour votre participation, on était ravis, hein, Fabienne, de vous recevoir, d'apprendre à vous connaître. Écoutez, vous pouvez revenir quand vous voulez sur Radio Imo, ce sera avec plaisir. Bonjour. On va se quitter sur un dernier titre. Fabienne, je vais vous laisser l'annoncer parce que mon italien à moi est très très particulier.
C'est vrai que je vous remercie parce que sur ce secteur très concurrentiel, on découvre que le sourire, la simplicité, tout a l'air facile avec vous. Facile comme cette chanson de Matt Lazy et qui s'appelle Dimmi Cosa Sarà, et pardon pour les vrais Italiens.
Voilà pour le choix musical de notre invité que nous allons retrouver dans quelques secondes. Le temps de vous annoncer la suite de vos programmes. Le flash de 9h suivi d'Allo Radio Imo comme tous les vendredis jusqu'à 9h30 et puis eh bien la suite de votre grille pour le vendredi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro du mag de l'Imo. Passez une très bonne journée.
Ma come fare per sapere quel giorno arriverò in quel giardino proibito? Ma devo dire che tu sai che questo aspetterò a quella vita che non ho. Dimmi cosa sarà, ma come fare per capire no cosa sarà? Tu lo sai. Cosa sarà?
Cosa sarà?
Ma come fare per morire? No, cosa sarà?
Cosa sarà?
Tu lo sai.
Sento fare un'acqua, la bellezza di un sole, da lume sto momento. Ecco pieno un dark in cielo, quanto penso a te, cara. Spero di ritrovarti soli tra midi,
cosa sarà?
Castello fra un cucine, soli tra midi,
cosa sarà?
E tu, soli tra midi,
cosa sarà?
Castello fra un cucine, soli tra midi,
cosa sarà?
E tu.
Quiero tu risa alrededor y nunca lágrimas que son. Solo agua que se pierde, amor. Dicen que es sabio esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amor. Y es que tú y yo,
que es tú y yo,
somos esta realidad, solo tú y yo,
que es tú y yo,
y nadie más. Solo tú y yo. Vimos hechos para estar solo tú y yo,
tú y yo,
y nadie más.
La matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.